Ah, pourquoi ça marche pas, putain?
Ah, t'appuies. Si t'appuies pas sur plan.
Non. Un. Deux. Trois. Trois. Bonjour.
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 Eh oui, cette fois, il y a un générique, c'était un peu dur, mais il y en a un. Bienvenue chez vous, avec les écouteurs, pour un nouveau podcast de Père Dusa, avec Blackie, qui est venu spécialement des États-Unis pour discuter de l'épisode de l'année, l'épisode de Mad Men qui a été diffusé dimanche dernier. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, tout ça se passe chez Tigrou. Bonjour, Tigrou.
Bonjour.
Et voilà.
Et on a Gégé qui présente le podcast, comme d'habitude.
Bonjour. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On est avec le 11e épisode de Mad Men, l'épisode qui a fait réagir tous les gens qui aiment Mad Men. Pour vous situer le décor, c'est l'épisode où John se prostitue pour que la boîte puisse décrocher un contrat, tandis que Peggy démissionne. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cet épisode qui est diversement accueilli? Moi, je pensais, après l'avoir vu, que bah, voilà, c'était un nouveau... Ce sera un nouveau point marquant dans Mad Men, un épisode de référence que tout le monde adore, que tout le monde porte au nu. Moi, j'étais complètement tremblant à la fin. C'est pas vraiment le cas. Les avis sont partagés sur cet épisode. Il y en a pas mal sur les sites américains qui pensent que les personnages n'ont pas été cohérents avec eux-mêmes, que les intrigues ont été mal préparées, qu'elles arrivent comme ça trop vite. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur épisode de Mad Men de cette saison?
Moi, oui.
Oui, je pense aussi. Un des meilleurs, en tout cas.
C'est quand même très très important, déjà le départ de Peggy. On reviendra sur John après, mais on a quand même démarré Mad Men un peu avec Peggy. C'était son premier jour de boulot, son arrivée, donc là son départ c'est très important. Ouais, puis ce qui se passe avec John, effectivement, c'est très important aussi. J'ai pas du tout envie de développer, allez-y.
Effectivement, alors moi déjà tout ce qui touchait à Peggy, j'ai trouvé que c'était absolument parfait, que ce soit la façon dont c'est amené, le fait que ça soit développé assez rapidement, je vais attendre que le portable de Blackie ait fini de sonner, et la scène où elle s'en va, que ce soit le moment où elle l'annonce à Don, ou le fait qu'elle parte finalement de façon assez discrète de la boîte, et le grand sourire qu'elle affiche quand elle réalise qu'enfin elle va peut-être aller dans une boîte qui l'aura vraiment... parce qu'elle aura recruté comme ce qu'elle est, comme une professionnelle, et que du coup elle ne sera pas dans une position où elle doit en permanence remercier les gens de lui avoir laissé sa chance et s'excuser presque d'être à son poste. C'était très très bien, et comme d'habitude, le jeu d'Elizabeth Moss,
c'est ça ? Oui, c'est ça.
Était absolument nickel. Après, moi, l'intrigue avec John, j'ai trouvé ça très fort aussi. Je peux comprendre la réticence de certaines personnes, parce que c'est vrai que ça a amené très vite, que ça n'a pas du tout été annoncé avant dans la saison, et que du coup, on a un peu l'impression qu'entre le début et la fin de l'épisode, il s'est passé énormément de choses, et ça a été très dense. En même temps, je pense que c'est aussi ça qui fonctionne, le fait qu'on... que c'est pas vraiment une décision qu'elle a le temps de faire mûrir ou de réfléchir.
Parce qu'effectivement, ça se passe d'un seul coup, il faut réagir, c'est maintenant que jamais, et effectivement, on n'a pas 3 épisodes pour que John et tout le monde puissent vraiment peser le pour, le contre, ah bah quand même. Non, mais j'ai trouvé que c'était un épisode d'une force incroyable, et ce qui est phénoménal avec Mad Men, c'est que mais personne n'a la même interprétation des motivations des personnages. Tout le monde parle des personnages comme si c'était des gens qui existaient vraiment, interprètent chaque phrase, etc. Moi, j'ai mon interprétation, et c'est ça qui est tellement fort dans cette série, c'est que ben voilà, on a tous l'impression que la série a été écrite d'une certaine façon, et toutes les interprétations sont à peu près valables. Mais c'est ce qui fait la force de l'écriture de cette série.
Et puis comme toujours, c'est fait de manière très subtile, puisque effectivement, on peut finalement choisir un petit peu de penser.
Pas silencieux.
Je connais pas ce téléphone, c'est celui de mon père. Je suis désolée.
Non, on va couper tout ça au montage, on n'y arrivera pas, mais ça fait bien de le dire.
Ouais. Et oui, mais ce que j'apprécie dans Mad Men, c'est qu'il y a toujours, je trouve, une grosse ambiguïté morale et que finalement, la série, elle juge autant son époque que ses personnages. Et du coup, c'est jamais complètement didactique, même dans les moments les plus horribles, par exemple, quand John s'est fait violer par son fiancé. Dans les saisons d'après, ils n'ont jamais montré son fiancé comme quelqu'un de complètement atroce. Ils ont essayé de développer un petit peu le personnage pour montrer que c'était aussi quelqu'un qui, entre guillemets, avait de bon côté. Ce qui est plutôt intéressant parce que finalement, au lieu de simplement nous montrer un horrible violeur qui attaque John, ils font plutôt un commentaire sur une époque où finalement, quelqu'un qu'on considérait comme un type bien pouvait très bien se permettre d'abuser de sa fiancée par terre sans que ce soit jugé comme inacceptable. Et là, je trouve qu'ils font encore la même chose dans cet épisode où finalement, il n'y a à aucun moment quelque chose qui est didactique et qui nous dit « mais en fait, il y a tel personnage qui a raison et tel personnage qui a vraiment tort ». Et c'est aussi pour ça qu'on voit autant de gens interpréter ce qui s'est passé différemment et trouver l'attitude de tel ou tel personnage pire que les autres. Ce qui varie beaucoup en fait selon les critiques.
Désolée, je n'ai pas trop entendu ce qui s'était passé, mais c'est surtout Jérôme, tu parlais de ces critiques qui disaient que tous les comportements n'étaient pas forcément compréhensibles par rapport à ce qu'ils avaient fait auparavant. Moi, j'ai trouvé ça très très naturel. J'ai trouvé que justement c'était l'accumulation de tout ce qu'on a vu dans les saisons passées et surtout cette saison, même la réaction de Roger. On a vu avant qu'il essayait justement de donner de l'argent pour le bébé, etc., d'être impliqué, et que John l'avait un peu envoyé balader. Mm-hmm. C'est très facile de prendre ça aussi, de prendre ce moment-là pour je vais pas me mêler de ce qui arrive à John parce que elle est prête à se vendre pour de l'argent d'un autre type alors qu'elle veut pas du mien, moi je m'en fous. Enfin, même des petites choses comme ça. Évidemment, il y a ce qui s'est passé avec Lane, il y a ce qui se passe avec Pete. Qui n'a que du pouvoir dans son boulot et se sent tellement nul en dehors, donc qui a envie de le garder jusqu'au bout et d'avoir un jaguar jusqu'au bout. Enfin, tout ça pour moi c'était logique.
Oui, mais
pendant
l'épisode, je me suis pas du tout fait ce genre de réflexion. C'est vraiment depuis que, comme j'ai été vraiment épaté par cet épisode, j'aime bien lire en général et me conforter dans mon impression d'avoir vu un chef-d'œuvre. Et là, j'étais assez surpris. Il y a aussi les critiques sur les critiques qui m'ont fait rire, c'est comme celle d'Alan Sepinwall qui explique que son véritable problème avec l'intrigue de John, c'est qu'il aime tellement le personnage qu'il est déçu qu'elle ait fait ça. Et c'est vraiment ce qui est...
Ça suit, genre, c'est à peu près aussi sexiste que ce qu'on a dans Mad Men.
Mais oui, c'est dans le podcast, il fait un podcast lui aussi. Mm-hmm. Le gars en face, il est effondré en lui expliquant que ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec John et puis ça n'a rien à voir avec aimer le personnage ou pas. De toute façon, c'est ce qui lui arrive, point barre. Ça n'entache pas
l'affection. Oui, pour lui, l'affection. Elle est salie maintenant. Hein. Non, mais sinon, elle n'est pas devenue Pretty Woman en deux secondes non plus. Elle n'avait aucun choix dans cet épisode. Aucun. Ouais.
Et puis, c'est plutôt... Enfin, en plus, c'est vraiment amené d'une manière qui rabaisse absolument pas son personnage, puisqu'on la force à le faire et à aucun moment, on pense qu'elle a un tel intérêt en jeu. Enfin, c'est pas elle qui le provoque, finalement. Donc, je vois pas... Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis qui, effectivement, ont été perturbés parce qu'ils ont mis un jugement moral sur son choix. Ouais. Et qu'en fait, eux, dans leur tête, c'était le choix qu'il fallait pas faire. Et à partir du moment où elle le fait, elle est dégradée, elle a plus autant de valeur... finalement, l'épisode était quand même plutôt bien amené parce que depuis le début de la saison, ils mettaient le personnage en situation de devoir accepter ça parce qu'effectivement, quand on lui propose 4 fois son salaire ou 5% de la compagnie pour coucher avec un client un soir et qu'en plus, depuis le début de l'épisode ou de la saison, tous les hommes avec qui elle travaille l'ont plus ou moins sexualisé et lui ont plus ou moins montré qu'il la considérait pas vraiment mieux que comme un objet de désir. C'est pas du tout incohérent avec le personnage qu'elle finisse par se dire que comme elle est considérée comme ça, autant qu'elle en profite.
C'est très très naïf, moi, je trouve, de considérer qu'elle avait le pouvoir de dire non. Parce que si elle avait dit non, sincèrement, elle se serait mis toute la boîte à dos.
Déjà, sa position était plus tenable s'il perdait, ou même s'il gagnait, effectivement, s'il gagnait le contrat, c'était malgré le manque d'esprit d'équipe de John.
Oui, donc, dans un cas ou un autre,
elle était perdante. Elle était perdante dès que cette proposition est arrivée sur le tapis.
Dès qu'il lui propose, en fait, c'est pour ça que, enfin, à partir du moment où il lui parle de la situation, elle est déjà coincée puisqu'elle peut plus refuser sans faire part de lui.
Je trouve que ça tombe vraiment très très bien dans la saison, dans l'évolution du personnage, puisque on a bien vu cette année que John, pas qu'elle s'émancipait, mais oui, ça y est, elle se libérait enfin, elle reprenait un peu son pouvoir, elle s'est débarrassée de son mari, elle est revenue au boulot, et on lui avait bien fait comprendre qu'elle était indispensable, qu'elle avait manqué, qu'elle avait vraiment un rôle essentiel dans la boîte. Et là, tout à coup, on la rabaisse. C'était importante, mais pas à ce point.
Et puis, dans cette saison, elle est coincée entre Meghan et Peggy. Peggy est celle qui est la femme qui est la plus prise au sérieux au boulot. Et puis, Meghan est celle qui a la vie qu'elle a essayé d'avoir, c'est-à-dire la femme qui peut vivre sa vie dans son coin, qui fait comme elle l'entend parce qu'elle a l'argent de son mari. Et Joan, elle a réussi elle n'a pas réussi, justement, à avoir quoi que ce soit.
C'est celle qui en fait le plus depuis la saison 1. C'est celle qui travaille le plus et c'est celle qui aime. Je sais pas, qui vraiment se prend les pires trucs entre son mari, le viol et puis maintenant ça. Peggy, c'est, je ne sais plus qui l'avait rappelé pour cette saison, quand elle essayait un peu de faire comprendre à Dawn, la secrétaire, si elle avait envie d'être copywriter. Genre, c'est génial, j'ai un poste absolument formidable. Mais oui, mais on lui a tendu ce poste. C'est vrai, Peggy, effectivement, elle a monté les échelons, etc. Mais bon, c'est parce qu'on lui a tendu la main. Hein. Joan, on lui a jamais tendu la main. Joan, elle a tout fait, elle, toute seule, tout le temps.
Ouais, en même temps, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que la série, elle oppose régulièrement Peggy et Joan comme deux personnes qui font des choix assez cohérents avec ce qu'ils ont fait avant, mais des choix qui n'ont pas les mêmes résultats. Et c'est vrai que là, dans cet épisode, c'est assez clair que... Je pense que Peggy, si on lui avait fait la même proposition, mais aussi parce qu'elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas eu la même évolution depuis le début de la saison, mais on se doute qu'elle n'aurait pas du tout choisi la même chose et qu'elle aurait claqué la porte. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est aussi de voir que... et d'ailleurs, je pense qu'ils n'auraient pas proposé ça à Peggy.
Ils ne l'auraient jamais proposé.
Et en fait, dans l'esprit des hommes de Mad Men, je pense que là où John ne peut vraiment pas se permettre de refuser, c'est que c'est quand même une femme dont ils savent qu'elle a une sexualité. Et du coup, s'ils perdent le compte... Enfin, à partir du moment où elle a une sexualité, il n'y a plus vraiment de différence entre le fait qu'elle puisse coucher avec quelqu'un au boulot ou qu'elle puisse coucher avec un client pour décrocher un dossier. Je pense que dans leur esprit, c'est un petit peu... Ah, puisque de toute façon...
Je ne suis pas sûre que ce soit parce qu'elle a une sexualité, puisqu'ils n'arrêtent pas de le répéter. Maintenant, c'est une femme bien, entre guillemets. C'est une femme mariée, même si elle est sur point de divorcer. C'est surtout que eux la sexualisent. Parce que Peggy, ils la voient pas complètement comme une femme. Elle est assez moyenne.
John se sexualise aussi en permanence dans la manière dont elle s'habille, dont elle se comporte.
Comme dirait Circe, c'est un peu son pouvoir. Elle a son pouvoir grâce à ça aussi.
Oui, mais c'est Peggy et John, elles n'ont pas choisi le même angle d'attaque, mais aussi parce que Peggy est arrivée peut-être à une époque où elle pouvait se permettre d'attaquer son boulot un petit peu différemment.
Peggy, elle n'avait pas le choix, parce que la différence entre Peggy et John, c'est que Peggy, elle est moche, d'après les critères de la série, ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui aurait pu, même en tant que secrétaire, s'en sortir aussi bien. Si on revient à la première saison où on voit la dynamique et la hiérarchie dans la boîte, John, c'était la Queen Bee parce qu'elle était dans son époque et c'était la femme la plus influente au boulot. Pas parce qu'elle avait tout ce qu'on attendait d'une femme, et c'était elle qui avait ces atouts-là à leur maximum.
Si Peggy avait été plus jolie et donc qu'ils avaient voulu coucher avec elle, elle n'aurait jamais eu autant d'opportunités.
Ah, c'est ça, Peggy, ouais. Peggy, en gros, il y aurait eu une compétition entre Peggy, si Peggy avait été aussi jolie, mais étant 5 ou 6 ans plus jeune que Joan, la compétition se serait faite entre les deux femmes et Peggy serait devenue la nouvelle Joan qui se serait éclipsée, qui aurait trouvé un mari s'il avait réussi et qui aurait disparu. Et effectivement, c'est... l'histoire de Mad Men, c'est la tragédie. Mais... enfin, c'est une tragédie. C'est la tragédie de l'évolution des femmes des années 50, c'est ça. C'est Joan et comment elle s'appelle, la blonde.
Betty,
qui sont des femmes qui dans le contexte dans lequel elles ont évolué dans leur vingtaine ou leur trentaine, de toute façon, effectivement, n'étaient pas suffisamment rebelles, et c'est des femmes qui se sont pliées aux règles de la société, aux règles des hommes, et qui, quoi qu'il arrive, là, maintenant, c'est pas qu'elles le payent, ça, elles n'avaient pas le choix. Ouais.
Mais c'est des règles qui, d'un coup, ont changé, et elles ne peuvent pas s'adapter pour...
Par contre, j'ai juste envie de revenir sur le fait que Joan, elle a utilisé ses moyens au début de Mad Men, quand tu disais, avec l'époque. La Joan qu'on a actuellement, elle joue pas du tout sur sa séduction. Enfin, c'est vraiment... elle a été la femme mariée depuis au moins 2-3 ans.
Ah, mais clairement,
le fait qu'elle soit belle, après, je veux dire, elle roule pas des hanches en permanence, elle joue pas les séductrices du tout.
De toute façon...
Mais elle ressemble à ça, elle ne peut plus.
De toute façon, elle ne peut plus parce qu'elle est considérée comme vieille, de toute façon, maintenant,
oui.
Désormais.
Mais elle n'a pas cherché à séduire ce client.
Elle est victime d'avoir été une femme intégrée dans son époque quand elle était jeune. Donc, de toute façon, pour s'en sortir, elle était comme ça. Et l'image que les hommes ont pu garder d'elle... C'est celle-là, c'est...
Oui, même ses soi-disant collègues qui la respectaient tant, qui sont venus la chercher pour leur nouvelle boîte, Don, Roger et compagnie, ça se voit, au bout du compte, c'est... t'es une belle femme, et puis c'est tout ce que tu resteras.
C'est la jolie secrétaire...
Alors qu'elle a prouvé qu'elle était tellement plus...
Elle est super belle, donc c'est super... Et en plus, elle est compétente, mais c'est quasiment... C'est quasiment juste un bonus, parce que son rôle essentiel, c'est quand même de...
D'ailleurs, le seul moment où on lui propose de devenir associé à la boîte, alors qu'elle est quand même, elle a quand même un rôle clé, qui à mon avis est aussi proche que le rôle que peut avoir Lane, par exemple, qui est un homme, c'est quand elle accepte de coucher avec un client pour décrocher une affaire. Et là, on lui propose de s'associer, mais sinon, ça aurait été inenvisageable.
Et Lane, il le fait... c'est à moitié dans son intérêt et à moitié dans celui de Joan.
Ouais. Je pense que lui, c'est pareil, il se déculpabilise un petit peu, s'il sert son intérêt en même temps. Enfin, tout dépend si la boîte fait faillite.
Je pense aussi qu'il est assez réaliste, hein, un peu plus qu'avant. C'est vrai, avant, c'était le type choqué qui va se battre contre Pete parce qu'il a osé amener le client voir des prostituées. Et maintenant, c'est lui qui prostitue carrément son ami, parce qu'ils ont quand même été assez proches.
Mais cela dit, moi, la scène où Lane parle avec Joan, j'ai pas eu la sensation qu'il l'a poussé, j'ai eu la sensation qu'il lui disait non, mais de façon un peu intéressée, parce que lui, ça l'a... Enfin, je pense qu'il pensait aussi aux 50 000 dollars qu'il pouvait pas lui donner. Et ensuite, quand il sent qu'elle hésite, mais elle, il se rend pas compte que si elle hésite, c'est parce que, comme il y a eu un double discours, Pete leur a dit à tous que Joan y réfléchissait, et lui, il revient en disant à Joan, bon, ben, du coup, Pete nous en a parlé à tous, et elle comprend qu'il pense qu'il l'envisage, et du coup, elle accepte aussi pour ça, parce qu'elle se rend compte que, de toute façon, dans leurs yeux, elle vaut pas vraiment... Enfin, il y a personne qui s'est dit jamais elle acceptera, point, parce que si quelqu'un l'avait dit, je pense pas qu'elle aurait...
J'ai l'impression qu'il lui dit t'es coincé, alors autant tirer le meilleur. Autant tirer le maxi.
Je ne sais même pas si c'est dans son intérêt à elle. C'est effectivement, moi, je pense plutôt qu'il ne voulait pas débloquer du liquide pour elle. Donc dans ces cas-là...
Ça va avec. Tu sais quoi, t'es sur le point de dire oui, t'as l'air d'être coincé. Plutôt que de demander une petite somme d'argent, essaie de voir ça sur l'avenir. Et puis essaie d'en tirer un profit, c'est tout. Il lui dit t'es coincé et je pense qu'elle s'en rend compte aussi à ce moment-là.
Mais vous pensez quoi du fait que on nous montre pas tout de suite que Don vient la voir pour lui dire mais j'étais pas au courant du tout de toute cette histoire. Non, tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez pourquoi on nous a pas dit tout de suite qu'il était arrivé avant?
Moi, vraiment...
Je comprends pas pourquoi, parce que
j'ai
un peu l'impression que le fait qu'on nous dise après, c'est pour nous dire « regardez, si Don était arrivé avant, elle n'y aurait pas été, c'est dommage, c'est encore un moment tragique ». Je trouve que ça affaiblit... Non, en fait, je sais pas, parce que je me dis que ça nous a permis aussi de ne pas nous poser la question quand elle couche avec... quand elle couche avec, avec le gars de Jaguar. Et je sais plus ce que je voulais dire.
Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire.
Moi, en fait, ça, ce qui m'a gêné, c'est que c'est pas du tout le type d'artifice qu'utilise en général la série. Mm-hmm. Et que du coup, j'ai trouvé ça un petit peu artificiel. Et ça souligne. Enfin, effectivement, le moment où on revoit la scène en sachant qu'elle vient de coucher avec le mec de Jaguar, là, ça rend la scène assez intéressante parce que finalement, est assez horrible parce qu'elle se retrouve face à Don qui, en gros, lui dit mais t'abaisse pas à faire ça alors qu'elle vient de le faire. Donc, en gros, il lui dit mais tu t'es vraiment rabaissé. À mes yeux. Mais je pense que ça aurait pu très bien fonctionner sans flashback, finalement. Enfin, il suffisait qu'on suive, du coup, le personnage de Joan.
Je suis pas sûr. Moi, vous le prenez dans le sens où c'est Joan. Moi, je le prends autrement. C'est plutôt, en tant que spectateur, on a tendance à vouloir que Don soit notre héros. On voit que ses défauts en permanence, on le déteste, mais on a toujours envie qu'il se rattrape. Et là, je pense que c'était aussi pour nous, pour qu'on ait cette sensation de voir Don comme le prince charmant qui vient la sauver avant que les dégâts se fassent. Et ensuite, quand on apprend que c'est déjà arrivé, bah, là, je me suis mis un peu dans la tête de John. C'était, non mais mon pauvre gars, t'es juste venu là pour toi, pour te rassurer, pour faire le mec qui a de la morale, mais en fait, tu sers à rien. Tu serais venu de toute façon avant ou après.
De toute façon, c'est ça.
Tu sers à rien.
À la fin de l'épisode, de toute façon, j'ai l'impression qu'on pouvait pas penser que ça aurait changé quoi que ce soit qu'il arrive avant. De toute façon, c'était trop tard.
Il n'est pas venu la voir pour elle. Hein. Il est pas venu la voir pour la sauver. Elle, il est venu la voir pour lui avoir une bonne conscience.
Ou parce qu'il était vexé que lorsqu'il a claqué la porte, la conversation s'est pas arrêtée. Ils sont pas passés à autre chose. Donc piqué au vif, il s'est dit j'ai le pouvoir de encore tout stopper. Mais effectivement, c'est pas par un intérêt, c'est pas par altruisme, c'est pas par, par considération envers
John. La semaine d'avant, c'était quand même tous les deux étaient réunis, ils étaient proches, t'es toujours admiré, tu m'as toujours fait peur, blablabla, blablabla. Du style, je tiens vraiment à toi, on est plus que des vieux collègues, et puis on voit bien qu'il la laisse complètement tomber dans cet épisode.
C'est parce que Don, lui, il connaît la situation de John.
Oui, il sait qu'elle est divorcée.
Il sait qu'elle a besoin de cet argent, enfin...
Mais je suis pas aussi cynique que vous, je pense pas que Don, il y allait vraiment uniquement pour se donner bonne conscience. Après, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'il va la voir, mais finalement, il lui dit pas vraiment réfléchis, fais ton choix, t'es pas obligé. Il lui dit plus ou moins de ne pas le faire. Et en fait, finalement... Il est comme les autres, il vient lui dire ce qu'elle doit faire plutôt que simplement de lui enlever la pression en lui disant mais c'est pas grave, on peut faire différemment, moi je vais appeler pour refuser cette pratique ou autre. Il vient quand même juste lui dire, presque pour des raisons morales, il lui fait un peu la morale finalement, il lui dit écoute, là t'envisages de faire un truc, mais c'est pas bien, donc ne le fais pas. Ce qui est aussi un petit peu... C'est ça aussi, je pense, qui rend la scène assez forte, c'est qu'il vient plus ou moins juger de ce qu'elle va faire, sauf qu'en fait, elle vient de le faire, donc en gros, il lui balance son jugement dans la gueule, sachant que Don, je crois que sa mère était une prostituée. Donc, Mais finalement, après tous les autres personnages qui sont venus plus ou moins lui dire « tu devrais le faire » sans vouloir trop lui suggérer, y a un personnage qui vient lui dire « là, tu dois absolument pas le faire », mais à aucun moment, y a un personnage qui la laisse vraiment libre de sa décision.
Et après, il n'y a aucun personnage qui l'aide.
Ouais, qui lui propose une solution.
Don aurait pu tout stopper en appelant Jaguar ou en disant...
Non, il aurait pu refuser de présenter, effectivement.
Il aurait pu dire, peu importe l'avenir de la boîte, on ne laissera pas l'une de nos employés se faire traiter de la sorte. C'était le pouvoir, le véritable pouvoir, c'est eux qui l'ont toujours et c'est eux qui l'avaient à ce moment-là. John, elle ne pouvait pas faire autrement. Enfin, ouais, et c'est vraiment pour ça que c'est génial, cette série.
Le seul à avoir dit quelque chose... Au tout début, c'était Ken. T'aurais pu stopper ça tout de suite, dire qu'elle était mariée, et puis t'as sorti une excuse un peu à deux sens. Mais
et finalement, Ken ne va absolument jamais parler à John de ça, parce que finalement, le seul moyen d'arrêter les choses, c'était de même pas passer ça, de pas passer l'info à quelqu'un d'autre dans la boîte. C'était d'arrêter ça, la conversation, le dîner, quitte à ce que ça rate.
Mais Don est un lâche, hein. Ça fait un petit moment que... On le sait. Là, je trouve que ça a bien, bien ancré la chose. C'est ouais. Monsieur a des... Il essaie de croire qu'il a des grandes morales, etc., des principes, mais on voit ses actions qui sont complètement contraires.
Ouais, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a plein de gens qui, dans l'épisode, ont vraiment vu Don comme le héros qui était
le
prêt à tout,
et le seul qui a agi moralement. Faut pas rester passif.
Bon, et vous croyez qu'on va la revoir, Peggy ?
Ah bah bien sûr.
Ah bah oui. Pourquoi ?
Bah, j'espère qu'ils vont pas faire comme Letty, qu'elle va pas apparaître une fois et demie par saison.
Parce que comment...
Non, je pense que Don se retrouve maintenant tout seul, parce que sa femme a quitté la boîte. Là, ouais. sa protégée vient de quitter la boîte. Déjà que lui était pas.
Boîte,
il marchait un peu
faillite,
sur des œufs, surtout face à Ginsburg et puis les jeunes qui commencent il commence un peu à se sentir inutile. Je pense que il va avoir besoin de parler à Peggy.
Mais moi, je pense qu'on va peut-être pas la voir pendant un épisode, mais je suis certain qu'on. Enfin,
c'est pour ça qu'on va la revoir cette saison.
Enfin,
pour moi, c'est elle la vraie
héroïne
de. Parce que Mad Men, ça a vraiment commencé avec son arrivée. Et pour moi, c'est aussi, enfin, elle est un personnage aussi essentiel que Don. Ensuite, c'est vrai que Betty, à une époque, était un personnage essentiel de la série. Et là, elle a plus ou moins disparu depuis deux saisons. Mais malgré tout, je pense que c'était pas un personnage aussi central que Peggy. Ouais. Par contre, je suis pas certain qu'elle va rester dans son autre boîte pendant une saison entière. Peut-être qu'ils vont
trouver
un artiste
pour qu'elle revienne. La différence, c'est que Betty était importante par rapport à Don. Et c'est pour ça que. À chaque fois qu'on la voit, c'est toujours par rapport à Don.
Ah non, je suis pas d'accord. Les
premières
saisons, c'est un personnage clé,
un personnage dépressif. C'était
meilleur personnage.
Oui, non, mais ça
c'était
fait 5 ans.
C'était la Desperate Housewife, c'était vraiment ça.
Ça fait 5 ans qu'elle nous fait la dépressive. Excuse-moi, mais moi je vois son intérêt que par rapport à ce qui se passe avec la vie de Don.
Parce qu'il y a quand même une grande partie de la population féminine de cette époque-là qui était dans la situation de Betty, c'est-à-dire la femme au foyer. Et Mad Men montrait à la fois le côté professionnel de l'homme, et Betty, c'était sa vie professionnelle, c'était s'occuper de la maison,
oui,
être délaissée, ce genre de choses.
Par rapport à Don en tant que personnage, hein. Là, regarde, depuis qu'elle n'est plus mariée avec lui, on s'en fiche un peu, c'est bon, on a déjà exploité le thème de la femme mariée qui faisait rien, ça y est, on est passé à autre chose. C'est pour ça, maintenant qu'elle n'est plus dans la vie de Don, ça me paraît normal qu'on la voit presque plus et qu'on s'intéresse plus à ce qui se passe.
Oui, parce que la série a évolué aussi, mais je pense qu'au départ, Betty était le deuxième personnage principal.
Ouais. Sur les trois premières saisons, c'est vraiment un des
Peggy, c'était John Carter qui nous permet d'arriver dans l'univers de la série. Mais les deux personnages principaux, c'était le couple.
Oui, non, ça, c'est pas vraiment ce que je veux dire par là. Peggy, on pourrait la suivre toute seule, faire son chemin, on pourrait avoir des histoires intéressantes. Betty, si c'est pas par rapport à Don et par rapport au reste de l'univers... On s'en fiche un petit peu.
Mais Betty, je pense qu'on pourrait avoir des histoires intéressantes. Le problème, c'est je sais pas s'ils savent vraiment quoi faire du personnage. Et moi, j'ai l'impression que sur Betty, ils ont un peu trop tendance à écouter les gens qui, sur Internet, disent qu'ils aiment pas le personnage, que John Henry Jones joue mal, alors que elle est quand même... Moi, j'ai jamais trouvé qu'elle jouait mal dans Mad Men. Je l'ai pas aimé dans X-Men, mais dans Mad Men.
Elle
a peut-être un rôle qu'il a.
Mais
elle a un personnage. Et en plus, limité, je suis pas sûr.
Elle a
parce
jamais
qu'elle
été.
A vraiment
moi, je me suis jamais dit dans Mad Men. Elle joue tellement mal qu'elle gâche la scène. Elle n'arrive pas à aller au bout. Elle n'est pas aussi bonne que les autres. Dans. January Jones, moi, je l'ai jamais vu dans autre chose, je crois.
Dans X-Men First Class.
Oui, dans X-Men Machin. Bon, en même temps, dans un film de super-héros,
mais
c'est difficile.
En
d'être,
même temps,
un bon acteur.
Voilà, elle devait pas. Voilà. Non, mais peut-être qu'elle
commence
a besoin.
On commence pas ce débat.
Non.
Peut-être qu'elle a besoin d'être dirigée aussi, mais elle a un jeu un peu particulier qui, moi, je trouve, va très bien la série. Et d'ailleurs, la nouvelle femme de Don, elle a aussi un jeu particulier, je trouve.
Non, mais je dis pas le contraire. Ça va très bien avec Betty. Moi, je dis qu'elle est limitée parce que je pense que si on garde Betty. Là, on essaie encore de lui trouver un moyen d'être dépressif, d'être triste, etc. C'est peut-être aussi parce que January Jones ne sait faire un peu que ça. Elle est très bonne là-dedans,
l'un des meilleurs épisodes de la série, c'est celui où elle va en Italie.
Ouais.
Et où elle n'est pas dépressive, justement. Et là.
Ou même l'épisode d'avant, dans le deuxième épisode dans lequel elle apparaît, ou le troisième, à la fin, là, quand elle mange
le truc à Thanksgiving.
Elle est juste géniale, à la fois en même temps, elle est drôle, elle est pathétique, elle est en 5 secondes.
Ouais.
Donc, alors, est-ce que c'est du jeu? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est un ensemble? Moi, je pense que, enfin, elle pose, elle en tant qu'actrice, elle pose aucun souci dans la série. Et je pense que ça peut pas être son jeu qui explique le fait que son personnage est pas très bien exploité depuis deux saisons.
Je l'ai vu dans plusieurs trucs, donc c'est, moi, je base mon opinion là-dessus.
Tout ça parce qu'elle a été nulle dans Saturday Night Live. En même temps, quand t'as trois sketchs pourris sur cinq.
Non, il y a plusieurs films qu'elle.
Non, et puis c'est peut-être pas une grande actrice comique, mais en tout cas dans ce rôle, elle est impeccable. Mais moi, ce que je trouve avec Betty, mais c'est vrai avec beaucoup de personnages, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent la série, qui est quand même l'intérêt de Mad Men, c'est que ça se passe dans les années 60 et que les personnages ne sont pas des personnages spécialement en avance sur leur temps, donc ils ne sont pas sans arrêt à réagir comme nous dans des situations de l'époque. Et Betty, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent parce que quand elle a divorcé de Don, au lieu de devenir une grande féministe et de trouver un boulot et PDG, elle s'est remariée.
De brûler son soutif.
Ouais. Et pour John, c'est pareil. Les gens, ils lui reprochent finalement parce qu'effectivement, je pense que la même situation aurait lieu aujourd'hui. De nos jours, à notre époque, la personne dans la situation de John, elle refusera absolument, elle dirait non. Mais là, pour l'époque et pour la situation, il y a des gens qui ont l'air choqués qu'elle ne fasse pas le choix qu'eux jugent « moderne », entre guillemets.
Et moi, c'est là où je trouve que Mad Men, que se joue toute la supériorité de Mad Men, par exemple, à des choses comme Downton Abbey, qui est pareil. Alors, donc, c'est une série en costume, etc. Et par contre, les femmes dans Downton Abbey ont à peu près les mêmes réactions que si elles étaient nées en 1990. Et le traitement de la place des femmes dans la série anglaise est catastrophique puisque elles ont des réactions quasi de féministes. Bon, alors c'est un peu les traditions de
la petite sœur, oui, mais pas.
Oui, mais justement, le personnage de la petite sœur, c'est tragique, c'est-à-dire que elle descend en pantalon et puis tu la vois partir, c'est l'héritière d'une des plus grandes familles, etc. Tu la vois qui est en politique, qui est machin, qui est avec les pancartes et tout. Ça. Alors que, effectivement, et donc ça fait plaisir à tout le monde parce que.
Je sais pas si c'est un bon exemple. Attends, le type handicapé, au bout d'un épisode, ça y est, il remarche. C'est bon, c'est pas non plus.
Ouais, mais Ozymie, en gros, ça va se jouer entre Mad Men et Downton Abbey, quoi.
C'est tellement facile de rendre un personnage en avance sur son temps sympathique dans une série historique parce que du coup, c'est un peu le personnage qui est comme nous. Et Mad Men, ils ont jamais cédé à ça. Et même Peggy, qui est la personnage, entre guillemets, la plus moderne qui soit dans les personnages principaux, elle est quand même sacrément. Affectée par son époque quand elle
la demande pas en mariage et qu'il lui dit si on emménageait ensemble à notre époque maintenant quand quelqu'un nous demande d'emménager avec lui ou elle c'est comme le mariage dans les années 60 et là elle est dégoûtée et pour moi la meilleure scène de tout Mad Men c'est je sais plus quel épisode mais en gros c'est cet épisode là avec Peggy qui est dégoûtée elle est dégoûtée de la vie au boulot et elle tombe sur John et elle lui dit Myrd, il m'a pas demandé en mariage. Dans n'importe quelle autre série peut-être que l'autre l'aurait réconforté, mais on aurait vu un petit sourire genre je suis bien contente parce que nous les femmes on s'entraide jamais, etc. On voit pas ça. John lui remonte le moral. Résultat, quand Megan, la femme de Don, est à l'origine d'un nouveau contrat et que tout le monde s'en fout, Peggy la félicite. J'ai trouvé ça vachement beau, cette entraide entre les femmes. C'est des choses qu'on voit absolument jamais. Ouais. C'est des choses qui ont été construites au fur et à mesure où effectivement il y avait dans les saisons précédentes on voyait les femmes dans les ascenseurs qui n'ont rien à se dire parce qu'elles sont étrangères, elles sont rivales. Et je trouvais que là, à ce moment-là, on arrivait à un vrai moment d'entente et de solidarité féminine qui était vachement beau.
Surtout qu'en plus, ça s'oppose à la relation qu'elle donne avec le nouveau Ginsberg, par lequel il se sent menacé. Et je crois que c'est dans le même épisode, ou dans l'épisode d'avant, à la poubelle une idée de Ginsberg qui est meilleure que la sienne parce qu'il se sent menacé par ce mec plus jeune que lui qui finalement peut lui faire de l'ombre. Et à côté de ça, on voit justement Peggy qui en fait est tellement contente de voir Meghan réussir qu'elle oublie toute la jalousie qu'elle pourrait, qu'on s'attendrait à ce qu'elle ait dans une série du fait que Meghan est plus jeune, plus jolie, la femme du patron,
qu'elle a moins bossé,
et qu'elle a des talents partout, qu'elle n'a pas autant. Voilà. Et c'est vrai que c'était surprenant mais cohérent avec la série.
Et là, moi, mon objectif pendant ces vacances, c'est me refaire une intégrale Mad Men, parce que j'avais bien aimé les premières saisons. Mmh. J'ai toujours trouvé la saison que je regardais supérieure à la précédente jusqu'à la 4. Là, je sais pas si la 5 est supérieure à la 4, ou je me pose pas la question. Mais je suis complètement enthousiaste sur Mad Men, c'est formidable. Hein.
Je pense qu'il faudra la revoir, la saison 5, parce que j'ai remarqué aussi sur le forum que c'est pas que moi. C'est qu'elle est difficile à saisir, cette saison. Généralement, au bout de 2-3 épisodes, on arrivait à savoir quel était l'angle d'attaque, un peu le sujet de la saison. Personnellement, je me suis retrouvée assez perdue cette saison. J'étais pas complètement sûre de voir quel était le sujet de cette saison, en fait. Et je pense que je le comprendrai une fois arrivé à la fin et en le revoyant.
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la saison, en fait, sur... Enfin, c'est peut-être juste lié au personnage de Meghan, mais sur cette nouvelle génération qui arrive et qui, en fait, rend la précédente obsolète. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu évoqué dans les précédentes saisons de la série. Mais là, j'ai l'impression qu'entre Meghan...
Là, ils perdent pied. Là, c'est la saison où Don ou comment il s'appelle, Roger. Là, c'est vraiment la saison où ils perdent complètement pied par rapport à Meghan, par rapport à Ginsberg...
Et il y a les nouvelles valeurs aussi qui arrivent finalement, puisque quand Meghan dit « bah moi je veux faire un boulot qui me plaît, donc je démissionne », tu sens qu'en fait il n'y a aucun des personnages de la série qui a jamais ne serait-ce qu'envisagé qu'on pouvait choisir un boulot par goût. Enfin clairement c'était en fonction de,
du statut social
et de l'argent que ça rapporte, et puis d'entretenir sa famille sans doute. Mais... Après, moi, je suis un tout petit peu sceptique sur... je trouve que la saison, au tout début de saison, ils ont introduit les droits civiques de façon assez forte. Enfin, ils ont fini quand même le premier épisode là-dessus. Au final, on a eu un épisode avec la nouvelle secrétaire de Don, qui était assez chouette.
Ouais. Mais, ils ont dû développer ça.
Voilà, ils n'ont pas du tout développé. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'aient introduit de façon aussi appuyée pour ensuite complètement passer à côté, comme si finalement, je sais pas, il s'était dit ben, c'est telle époque donc on est obligé d'en parler. Moi je trouvais ça plutôt intéressant que dans les saisons précédentes il l'ait pratiquement ignoré parce que finalement les personnages s'en souciaient pas du tout pour montrer qu'en fait l'Amérique à cette époque là s'y intéressait pas.
Mais tu vois au début ils s'en soucient parce qu'ils sont forcés de s'en soucier parce que ça leur arrive dessus, ils ont pas décidé et je trouve qu'ils trouvent une solution
parce qu'ils ont voulu se servir d'un fait divers qui s'était passé aussi
et ils trouvent une solution, qui est d'intégrer pas les scénaristes, les personnages d'intégrer ce problème. Ouais. En gros, on a réussi à limiter la casse et ils continuent à vivre dans leur bulle. Dans leur bulle. De toute façon, c'est les publicitaires de Madison Avenue. Enfin, c'est pas le milieu le plus ouvert de la Terre.
Oui, et Dawn, en fait, finalement, on avait l'impression qu'on apprenait à la connaître. Mmh. Et finalement, en fait, c'était toujours en rapport avec Peggy et sa façon de voir son métier, sa façon de voir sa carrière, c'était... Mais elle servait finalement pour Peggy.
Elle a juste servi en fait à développer Peggy et c'était intéressant et c'était bien fait. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça un tout petit peu étrange d'avoir introduit vraiment comme ça un personnage en laissant entendre que ça allait devenir important. Peut-être que dans les prochains épisodes, il va se passer plus de choses ou la prochaine saison.
Il en reste deux. Ouais, il n'y a pas eu une vague annonce comme quoi il y aurait 7 saisons à Mad Men ou
quelque chose comme ça.
J'en sais rien.
Il veut s'arrêter aux années 70, ça c'est sûr.
Non, mais j'aimerais bien que Mad Men continue pendant des millions. Est-ce qu'on voit Mad Men dans les années 80
quoi.
Avec la lâche, le pétrole, Reagan et tout, Don qui a 60
Toxicoman,
ans. Sally Wake qui fait qu'il joue sa Drew Barrymore.
Cooper serait mort.
Hein
Cooper. C'est le vieux qui enlève toujours qui est toujours en chaussettes. Qui a peut-être deux lignes.
C'est pour ça qu'il faut que je refasse une intégrale de Mad Men parce que j'ai pas encore bien intégré les prénoms de tout le monde. Roger, j'ai beaucoup de mal. Donc ça fait à peu près 40 minutes qu'on parle de Mad Men. Apparemment, il y a d'autres séries qui sont diffusées en ce moment. C'est la période des season finale, je sais pas comment on dit. Il y a les séries de l'été. Vous voulez parler de quoi d'autre? Parce qu'en gros, on va essayer de se limiter à un podcast de 1 heure. Il nous reste 20 minutes pour parler du reste. Du reste. Blackie, parle-nous du reste.
Je viens juste de voir le dernier Game of Thrones. Je dois dire que j'étais assez déçue depuis les deux derniers épisodes, quelque chose comme ça. Celui-ci était formidable. Il était centré sur King's Landing, sur l'attaque de Stannis. C'était vraiment, vraiment une histoire concentrée. Vous l'avez vu ou moi, je ne spoil pas.
Mais non, moi je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu les deux
premiers épisodes. On va pas raconter les événements chocs. Mais...
Voilà, je ne dis pas la fin, mais en gros, c'est cette attaque qu'on attend depuis un long moment, quand même. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'on n'aille pas voir ailleurs ce qui se passait, dans le nord, ce qui se passait avec l'autre, avec ses dragons, dont on se fiche, même pas deux secondes comme on nous l'a fait la dernière fois. Non, ils sont vraiment concentrés sur cette attaque. Il y avait de tout, vraiment. Il y avait de l'action, il y avait du développement de personnages. Je l'ai trouvé vraiment très très réussi. Là vraiment, j'ai envie de... Si c'est pareil pour le dernier la semaine prochaine, j'aurais franchement hâte de voir la saison 3.
Je pense que le prochain va te décevoir parce qu'à mon avis, ils vont revenir au format un peu plus classique où ils suivent chaque intrigue et où du coup, ils ont 5 minutes par intrigue. Ce qui... Moi, je suis assez partagé sur cette saison, mais en même temps, comme j'ai lu les livres, je pense qu'une partie de... Enfin, je pense que le fait d'avoir lu les livres, ça fait que souvent, dans les épisodes, je sais déjà ce qui va se passer, j'attends un peu les scènes... et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment ils divergent des livres ou comment ils se dépatouillent pour sortir, enfin pour suivre l'intrigue des livres sans avoir autant de budget, autant de personnages, etc. Donc, mais j'ai du mal à juger la série. Enfin, j'arrive pas à avoir un regard complètement neuf dessus.
C'est pour ça que je refuse de lire avant d'avoir vu la série.
Je trouve que les livres sont mieux que la série, malgré tout. Mais
c'est souvent ça. Hein.
Parce que alors moi, par exemple, j'avais lu les livres jusqu'à... j'étais arrivé dans l'histoire jusqu'à l'épisode 7 et demi de la première saison, c'est-à-dire que je savais pas que le roi... Le roi dont j'ai oublié le nom...
Baratheon.
Ouais. Non, c'est lui, c'est le premier. Ouais. Robert, lui, je savais qu'il mourait. Non, mais l'autre, là, Stark, le héros.
C'est Ned Stark.
Ned Stark.
Il n'est pas roi.
Ouais, la main du roi. Enfin bref, c'est pareil. J'ai lu ça il y a hyper longtemps, moi, avant qu'il y ait un projet de série télé sur Game of Thrones, non mais... Enfin, quoi. Et je m'étais arrêté là. Et alors, j'avais adoré les derniers épisodes de la saison 1 parce que je connaissais pas les intrigues. Elle m'était bien fait chier au début. Parce que quand on a lu les bouquins, effectivement, le début de la saison 1, c'est quand même une
histoire
super plate. Où on se dit que, tiens, j'ai lu les livres, mais je comprends même pas ce qui se passe, tellement tout le monde parle en même temps, qu'il y a 5000 personnages, 200 endroits. Et alors, les deux premiers épisodes de la saison 2, hein, c'est les deux seuls que j'ai vus, j'ai vraiment une impression de voir Desperate Housewives saison 2, c'est-à-dire que chacun est dans son coin, vit sa vie avec le personnage avec lequel il est, et donc ils discutent, tout ça, et il se passe strictement rien du tout.
Ça, c'est le problème des livres, en fait. Mais c'est,
enfin, et c'est pour ça, en bouquin, je trouvais que ça marchait vachement bien, qu'il y ait le point de vue qu'on change dans chaque bouquin. On voit le point de vue du personnage qui ne sait pas, lui, ce qui s'est passé aux alentours. Nous, on sait ce qui se passe, donc on comprend. Mais là, dans la série, on a beaucoup moins ce point de vue intérieur des personnages. Donc, on est là et on les voit tous, chacun, vivre leur vie. Mais alors, donnez-moi envie de voir la suite.
Mais en fait, le problème, c'est que dans les livres, pour moi, la plupart des personnages, c'est presque des caméras qui sont censées filmer l'action. C'est-à-dire que ce soit les gamins Stark, en fait, ils sont très, très rarement acteurs de ce qui leur arrive. Et en fait, ils sont juste là pour voir ce qui se passe et nous le raconter. Donc ça, c'est logique qu'en fait, dans les livres, même si c'est parfois un petit peu frustrant, ils se croisent très rarement parce que ça sert à rien d'avoir deux personnages qui te racontent la même chose. Dans la série, c'est un peu plus problématique parce qu'effectivement, du coup, c'est très haché. Et moi, je trouve que cette année, les épisodes qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux où justement, ils ont mis genre la moitié des intrigues ou deux, trois intrigues de côté et où on a pu suivre une intrigue pendant 5 bonnes minutes chrono à la suite, développer un petit peu. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas fait si souvent que ça. Et il y avait des épisodes qui, pour moi, étaient c'était vraiment de l'adaptation. C'est pas inintéressant, mais c'était un peu plat, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient fait 5 minutes sur tel personnage, et puis il était arrivé d'un point A à un point B, et puis 3 minutes sur celui-ci. Voilà. Après, moi, ce que je trouve, là où je trouve que la série est forte, c'est que les interprètes sont vraiment tous excellents et qu'ils apportent tous quelque chose au personnage qui souvent n'est pas présent dans les livres. Et ils arrivent sans monologue intérieur à exprimer pas mal de choses. Je sais qu'on parle beaucoup de l'actrice qui joue la petite gamine Arya, mais l'actrice qui joue Sansa ou l'acteur qui joue Theon Greyjoy, ils sont absolument excellents et ils arrivent à... Ils apportent quelque chose au personnage qui, je pense, n'est pas présent dans le livre, alors que dans le livre, l'auteur passe son temps à nous dire ce qu'il ressent, etc. Mais ils arrivent à apporter une profondeur supplémentaire. Et c'est, pour moi, c'est ça vraiment l'intérêt de la série. C'est
moi qui n'ai pas lu les livres, effectivement, je le sens encore plus assez, durant cette saison 2. Mais par contre, le problème que tu donnais du fait qu'ils ne se croisent pas, etc., moi j'ai justement trouvé que dans cette saison 2, ils essayaient pas mal de le régler. On a eu Kathleen qui est allée au camp du troisième frère, là je sais plus, Baratheon, qui rencontre Brienne, après elle le ramène à son camp voir son fils, après Brienne avec Jaime, donc j'ai quand même vu des croisements et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette saison. Après effectivement, on n'y peut rien, Jon Snow, il a à part dans son coin, on peut rien y changer.
Daenerys, c'est pareil.
Daenerys, c'est exactement pareil. Bon, elle a été très très mal gérée. Très très mal.
En fait.
C'était vraiment histoire de nous montrer qu'elle est toujours là, qu'elle existe. Mais...
À leur décharge, elle fait absolument rien dans le bouquin. Et du coup, finalement, ils ont réussi à montrer 2-3 choses un peu plus intéressantes. C'est vrai que c'est pas un personnage spécialement. Quand on voit que dans la saison 1, c'était vraiment le personnage que tout le monde suivait, qui était le personnage fort et le personnage qu'on aimait retrouver. Et là, cette année, c'est juste une gamine assez casse-pied qui arrête pas de râler. C'est effectivement un des défauts de la saison qui est lié, à mon avis, au livre qu'ils adaptent, mais c'est pas forcément une excuse. Ils auraient pu gérer ça différemment.
Mais je me demande s'ils devraient pas faire un petit peu plus comme ils ont fait dans ce dernier épisode avec l'attaque de King's Landing, c'est-à-dire vraiment rester sur peut-être à la rigueur deux lieux différents, mais en tout cas là, effectivement, on avait les Lannister qui croisaient Stannis, donc ça suffisait. Là, c'était franchement passionnant l'épisode. J'ai eu l'impression qu'il était très très long, qu'il faisait un peu plus d'une heure. C'est peut-être juste une impression, mais il faisait au moins une heure. C'est passé à une vitesse incroyable. C'était juste passionnant à tous les niveaux. Et je m'en fichais complètement de ce qui se passait avec Jon Snow à la rigueur. Qu'on me fasse tout un épisode sur lui à côté, ou même sur Daenerys, au moins ils essaieront de le construire et ils feront quelque chose d'intéressant. Ce ne sera pas juste une vignette. Il existe.
C'est ça qui fonctionnait finalement dans la saison, c'est quand ils ont fait des épisodes avec moins d'intrigue et où du coup, c'était pas genre l'intrigue qui avance un tout petit peu, ils avaient vraiment le temps de développer ce qui se passait et du coup de construire un petit peu, de faire un début et une fin sur la même intrigue. Ils ne l'ont pas fait assez souvent à mon avis et je pense que ils n'ont pas suffisamment fait confiance à leur public, peut-être qu'ils ont raison, mais j'ai l'impression qu'ils ont pensé que s'ils ne mettaient pas la fille avec les dragons dans presque tous les épisodes, les gens allaient se lasser, et alors qu'ils auraient très bien pu la mettre dans un épisode sur deux, mais avec des intrigues un peu plus longues et un peu plus travaillées.
Il ne faut pas croire qu'on va les oublier, hein, vu comment les fans sont complètement accros à la série et retiennent les 350 noms des personnages, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils ne les oublieront pas au bout d'un épisode.
Après, moi j'ai du mal à voir autre chose vraiment qu'une adaptation visuelle qui fonctionne avec effectivement des acteurs qui rajoutent de temps en temps des choses à leurs personnages, mais c'est bon, ils sont obligés de pas mal simplifier les livres parce que pour que ça tienne en 10 épisodes. Et j'ai la sensation que si on regarde sans avoir lu les livres, mais c'est un peu comme quand on voit sans doute les films Harry Potter sans avoir lu le livre, il y a des simplifications qui ne sont pas vraiment logiques, et il y a des choses qui, pour moi, sont incohérentes. Je ne sais pas si ça se voit, quand on ne sait pas comment ça se passe dans les livres, en fait.
Sincèrement, je ne fais pas tellement attention. Il se passe tellement de choses... que sur le coup, peut-être que si je revoyais, j'y réfléchissais un peu plus. Oui, mais sur le coup, non, je me sens pas perdue. Je me sens beaucoup moins perdue qu'en saison 1, ça c'est sûr.
Après, là où les scénaristes sont assez habiles, c'est qu'effectivement, ils ont réussi un peu à contourner le fait que dans les livres, t'as un personnage qui te raconte quelque chose. Ils ont rajouté en fait des personnages qui ont pris beaucoup d'importance par rapport aux livres, et je trouve que c'est sur ces personnages là aussi qu'ils font des choses intéressantes. Mais peut-être que moi ça m'intéresse parce que c'est des choses que j'ai pas déjà vues en fait, donc du coup, et notamment sur le personnage de la reine Cersei enfin tous les personnages qui n'ont pas la parole dans les livres, ils arrivent à rajouter des choses et à les rendre un petit peu plus ambiguës, un petit peu plus intéressants que simplement la méchante, le gentil. Et là c'est plutôt, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, je pense qu'ils sont pas mal aidés par le fait qu'ils ont de très bons acteurs.
Je pense aussi qu'ils sont très très bons sur, comme tu dis, sur Cersei. Ils lui donnent des dialogues, mais ils le font en même temps avec pas mal de personnages. On a deux personnages réunis dans une pièce qui ne font que discuter. Et généralement, les dialogues sont absolument incroyables. On apprend énormément de choses sur eux. Ils deviennent tout à coup beaucoup plus complexes. Enfin, Ils ont vraiment des scènes de dialogue pur absolument formidables. Pour vraiment développer leur personnage et limite, tout à coup, on s'en fiche de ce qui se passe à côté, des prises de pouvoir, etc. Tout à coup, on a vraiment envie de rester sur cette scène, voir ces deux acteurs délivrer ces lignes de dialogue absolument formidables. Ils y sont vraiment... c'est pas juste les bouquins, finalement. On a envie de dire que les scénaristes de la série sont bons aussi.
Alors, cela dit, les dialogues sont souvent repris texto des bouquins, j'ai l'impression.
Ah oui.
Donc, je pense que c'est aussi... Les bouquins sont pas particulièrement bien écrits. C'est pas quelqu'un qui est un grand styliste. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui sait faire des dialogues qui fonctionnent. Et j'ai l'impression que souvent, ils reprennent tel quel ces dialogues. Et d'ailleurs, l'épisode, le dernier qui est passé, c'était écrit par l'auteur des livres, en fait, qui a repris une partie de dialogue qu'il en a écrit. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il sait faire. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ses livres. Après, effectivement, même dans ceux qui rajoutent, ils savent vraiment faire des choses qui fonctionnent. Et ils savent aussi les filmer d'une façon qui n'est pas ennuyeuse, parce qu'il y a tellement de dialogues dans la série. Et malgré tout, on ne s'ennuie pas dans les épisodes où il n'y a que des paroles et pas énormément d'action.
Ah oui, quand on voit des scènes entre Arya et le père Lannister, franchement, il ne se passe rien. Il y en a un qui est assis, l'autre qui est debout. Ils se regardent dans le blanc des yeux, ils délivrent leur ligne de dialogue, et puis c'est tout. Il n'y a rien qui pourrait être fort visuellement. Ils arrivent quand même à faire passer énormément de choses. Ça tient aussi des acteurs, mais voilà. Un gros plan sur l'acteur qui dit sa ligne, et ça y est, c'est tout de suite. Ça vaut n'importe quelle bataille.
Trois mots sur Community, puisque Iris n'est pas avec nous. Puisque vous savez que bon, elle vit très très mal. Elle vit très très mal le fait que le créateur de la série ait été débarqué alors que on aura une saison 4.
C'est vrai que ça avait un côté assez sadique de la part de la chaîne avec tous les fans qui l'ont fait chier pour prolonger la série, mais la prolonger sans le créateur. Je me demande s'ils n'ont pas fait ça exprès pour faire chier les gens qui leur envoyaient des mails d'insultes depuis un an. Les derniers épisodes étaient pas mal. Il y avait l'épisode des jeux vidéo qui était absolument phénoménal, dont tu vas peut-être vouloir dire un mot.
Ah non, c'est juste que j'ai trouvé super l'idée du jeu vidéo. Vraiment, les petits bonhommes étaient super bien dessinés. Et c'était drôle. Je sais pas si c'était vraiment les sons des Mario ou je sais pas comment ils ont négocié les droits. Je me suis posé des questions comme ça pendant l'épisode, genre comment ils ont fait pour avoir les sons. Est-ce qu'ils ont.
Je sais pas si c'est déposé les sons, mais en tout cas, c'est vrai que c'était bourré de clins d'œil à tous les jeux vidéo auxquels on a pu jouer quand on était gamin.
Quand Iris n'existait pas encore.
Voilà. Alors, c'est pas un jeu vidéo en 3D, Iris, il n'y a pas de.
Mais donc, vous pensez rien, en fait, de Dana Mode. Moi, je pense que ça va m'amuser d'essayer de voir s'il y a vraiment un ton différent, s'ils essayent de simplifier la série, parce que j'ai pas vraiment d'attachement à cette série. Moi, au contraire d'Iris, je pense que la série... j'ai appris à penser que la série... ce qu'elle réussissait le mieux, c'était les parodies, en fait. J'ai adoré l'épisode de Law and Order, j'ai adoré l'épisode avec le jeu vidéo. Tous ces épisodes de parodie, moi, ça plaît. Tous les épisodes à peu près normaux, où en gros, c'est basé sur Abed, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Le développement des personnages en tant que personnages dramatiques, en tant que. M'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand Community essaye d'être drôle. Mais donc, c'est pour ça que je sais pas si l'absence de Dan Harmon va se sentir tellement. D'un point de vue qualitatif,
je suis pas certain, effectivement. Je pense qu'effectivement c'était sa série, il lui avait donné un ton, mais en même temps, déjà, moi j'avoue que je pense que la décision de la chaîne, elle n'est pas forcément justifiable, mais on peut quand même comprendre quel raisonnement ils ont eu, parce que c'est une série qui n'arrive pas à gagner de l'audience. Ils essayent de lui faire gagner de nouveaux téléspectateurs. Et là, Dan Harmon, il fait l'épisode sur les jeux vidéo qui est super, mais je pense que n'importe quelle personne ne connaissant pas la série qui zappe sur cet épisode, qui est 100% en jeux vidéo en 2D, ou alors l'épisode où c'est que des photos, qui pour le coup en plus était un petit peu raté, où c'est un reportage photo sur leur guerre de bataille d'oreiller.
Ah oui.
C'est quand même, tous ces épisodes concept, à mon avis, il souhaitait qu'ils fassent une série un peu plus
qu'on pouvait. Je ne comprends pas qu'ils aient pas annulé la série parce que.
C'est ça, mais je comprends pas la décision de ne pas annuler et de garder.
Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas en quatrième saison que les gens vont arriver.
Non.
Une information sur un showrunner, on a débarqué le showrunner, va y avoir quelqu'un de plus populaire, enfin. de pas plus populaire, il y a un mot qui veut dire qu'il va rassembler plus de gens. Comment un homme politique doit être rassembleur, ou je sais pas quoi. Qui ça intéresse, le nom du showrunner d'une série, mis à part les gros fans?
Alors là, je vais mettre à la place d'Iris, parce que dans le principe, j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une différence entre vouloir amener plus de gens vers la série, de la rendre justement plus accessible.
Non, mais clairement, mais de toute façon, de cette façon-là, cette façon-là,
ils voulaient le garder comme consultant. Si encore il lui en avait parlé, etc., ça aurait été une chose. Après, lui filer un coup dans le dos, le dire à travers la presse et même pas directement auprès d'Harmon, je trouve ça dégueulasse. Ouais. C'est, en gros, on te pique ton bébé et on en fait ce qu'on
veut. Je suis d'accord que humainement, c'est nul.
Humainement, c'est nul, mais même commercialement, je comprends pas le raisonnement.
Commercialement, c'est pas bon.
Puisque les seuls gens qui regardent Community, c'est les fans.
Oui,
c'est, les gens qui regardent pas Community, ils vont pas venir voir en disant « Ah bah tiens... De toute façon, il n'y a aucune raison qu'ils aient lu des articles sur le changement de
mais
production.
Mais surtout que les fans vont être énervés. Même eux, ils vont les perdre comme audience.
Après,
ces fans-là ne vont pas vouloir
après,
donner
moi,
l'audience
je pense que,
au nouveau communisme.
Honnêtement, les derniers épisodes qu'a fait Dan Harmon sur la série, pour moi, c'était vraiment une façon de dire à la chaîne « Vous voulez m'annuler ?» J'en ai rien à foutre, je continue à faire exactement ce que je veux et je ne vais pas faire comme tous ces showrunners qui se plient, qui adaptent leur série pour gagner un petit peu d'audience, pour avoir une saison de plus. Donc, moi, j'aurais compris qu'ils annulent après ça, parce qu'effectivement, vu la direction que prenait la série, c'était pas parti pour gagner de l'audience, c'était plutôt parti pour en perdre, pour garder un noyau de fans.
Et en plus, je vois pas c'est la faute de NBC. Enfin, c'est le fait que la série soit diffusée sur NBC, c'est-à-dire que peu importe la nouvelle série qu'ils mettent, elle fait encore moins d'audience que la précédente. Donc forcément, ils mettent Community en hiatus. Ils mettent quelque chose à la place, c'est encore pire.
Et ils vont diffuser vendredi soir.
Community revient et fait des chiffres lamentables, mais c'est tellement moins mauvais que ce qu'il y a eu avant que d'un seul coup, ça devient la série la plus regardée de la chaîne ou dans ce style-là. Bah, je pense que ça va être...
Commercialement, c'est n'importe quoi. En plus, ils vont le mettre le vendredi.
Mais je pense qu'en fait, ils ont juste obtenu des épisodes pour vraiment pas cher, alors qu'ils n'avaient pas de grille, parce que ça va être syndiqué, en fait. Avec la saison 4, ils vont atteindre la syndication, non ?
Ouais.
Je crois que c'est ça. Donc, à mon avis, on leur a limite proposé des épisodes gratuitement pour atteindre la syndication, parce qu'effectivement, Community, à mon avis, c'est une série que tu peux rediffuser, vu le peu de continuité qu'il y a dedans et le nombre d'épisodes un peu indépendants. Mais c'est pas bien, mais en même temps, je veux pas... Enfin, voilà, pour moi, c'est pas pire que si la série avait été annulée. Voilà,
ça aurait peut-être été mieux qu'elle soit annulée. À la rigueur,
c'est comme un peu. Si, bah, c'est comme. Non, mais là, c'est la saison 4 de Arrested Development, là, les nouveaux épisodes qui risquent d'arriver. Je pense que ça va. Alors, c'est avec le créateur de la série, mais c'est vraiment ce genre de choses dont n'ont pas besoin ces séries un peu confidentielles qui tiennent parce qu'ils ont des émis, parce que. Bon, on sait pas pourquoi. Il n'y avait aucune raison que la Fox n'annule pas non plus Arrested Development au bout d'une saison. Et je pense que ça ne va vraiment pas rendre service aux séries, la saison 4 de Community, mis à part The West Wing, qui avait réussi à changer de showrunner après Aaron Sorkin, après une saison 5 calamiteuse, qui avait réussi à trouver un nouveau ton. De toute façon, Community n'aura pas 3 ou 4 saisons pour que le nouveau trouve son ton.
Ce sera
donc c'est bizarre. C'est bizarre ces épisodes.
Il y a de quoi faire parce que mon problème avec Community, c'est que les personnages n'étaient pas attachants. Contrairement à beaucoup de séries de sitcoms comme Happy Endings ou Cougar Town, où là vraiment on a presque envie d'être amis avec ces personnages, on a vraiment envie de sourire et de rire avec eux. Community, excuse-moi, je les déteste tous.
Quoi ?
J'arrive à regarder la série, mais en tant que personnage.
Oui,
individuel,
c'est tous ces caricatures
auxquelles je suis attachée. Oui, mais est-ce que tu es attachée à eux ?
Honnêtement, si le dernier épisode c'était une bombe explose dans l'université, ils sont tous morts, ça te ferait enfin, si c'était amené de manière rigolote, ça te ferait rigoler et tu te dirais pas c'est tragique qui meurt.
Ouais, mais comme ça, c'est une comédie.
Oui, mais ça te manque peut-être pas, mais je peux dire qu'ils peuvent jouer là-dessus. C'est peut-être ça
qu'ils
peuvent amener.
Ah bon, mais
j'aime un peu mieux la saison 3, etc. Moi, j'ai un problème avec Garton de toute façon.
Dit-il avec son vin, de... vin rouge devant lui.
Mais J'avais un truc super intelligent à dire et je viens de l'oublier.
Sur Community.
Oui, non. Après, moi, je suis quand même curieux de voir ce qu'un nouveau showrunner peut faire avec la série. Ouais, parce que Gilmore Girls, tout le monde était scandalisé quand ils avaient viré Amy Sherman-Palladino à la fin. Juste avant la dernière saison. Raison. Et moi, j'avais trouvé que la dernière saison, elle avait commencé, elle avait un gros coup de mou au milieu, mais la fin était quand même plutôt sympa. Enfin, c'était pas nul. C'était intéressant de voir quelqu'un d'autre tenter de faire quelque chose avec la série. Je dis pas que ce sera une grande saison, mais je me dis que peut-être que sur Community, on se rendra aussi compte de la part que peut avoir Dan Harmon et de la part qu'ont aussi les acteurs et les autres scénaristes dans le succès de la série.
Est-ce qu'il faut que je regarde Art of Dixie? C'est vraiment une question que je me pose parce que non mais alors effectivement comme Rorschach ou je sais pas sur le
quelqu'un
forum.
Je
crois que je me suis rendu compte que Gilmore Girls, j'avais pas aimé. Alors c'est vrai que j'ai pas vu les premières saisons de Gilmore Girls. J'ai pris en saison 3 ou 4. Et mais effectivement le syndrome la petite vie. J'ai vu le premier épisode de Art of Dixie. J'ai pas d'attachement particulier à Summer. Pour moi, c'est le personnage que j'aime le moins dans The O.C.
C'est pas elle que j'aime du tout le plus dans Art of Dixie.
Il y a vraiment autre chose que elle et la vie dans les petites villes américaines.
La série
c'est pas Gilmore Girls numéro 2 avec Summer de The O.C.
Non,
parce que le pilote, c'est ça.
C'est moins bon
que
Gilmore Girls. C'est moins bien écrit, Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. On est quand même parti sur une série avec une formule. Elle avait, c'était le médecin avec son cas de la semaine, où à chaque fois elle faisait une bêtise et donc au lieu de ramener d'autres clients, finalement elle s'aliénait encore plus le reste de la petite communauté. C'était le clash entre New York et l'Alabama. Ça a fini par s'arrêter. Parce que c'était vraiment lourd, c'était toujours oh là là, elle vient de New York, elle est snob, elle est bien habillée, elle est ceci, cela, elle a une
mentalité. Combien de temps? Parce que dans Revenge, en gros, elle se venge des ennemis de son père pendant trois épisodes, et puis après, on fait bon, ok, ça suffit maintenant, on va faire une vraie série.
Là, ça a fait même pas la moitié de la saison, je dirais. C'est vraiment au mois de décembre.
Je
sais plus à combien on en était au mois de décembre, mais c'est là que j'ai vraiment vu que la série avait changé, parce qu'on était sur une série très très légère, très ensoleillée, vraiment légère au plus haut point. Ça faisait sourire, mais sans plus. Et après, ils ont fini par développer leur personnage et amener des moments dramatiques. Et très très dramatique, et franchement des fois on finissait par pleurer à la fin de l'épisode, ce qui était étonnant alors qu'on capte pas forcément Art of Dixie pour ça. Et j'ai trouvé donc que la série était intéressante et essayer de chercher un petit peu plus comédie dramatique légère et sympathique.
Je vais décider si je vais regarder la série sur la réponse que tu vas apporter à ma question. Est-ce que au dernier épisode il y a un cliffhanger tout pourri à la fin?
Oui.
Ok, bon, je la regarderai. Est-ce que ça implique un triangle amoureux?
Oui, malheureusement, ils
sont... Bon, c'est mort.
Non, mais ils s'en fichaient.
Ça suffit.
On s'en foutait complètement pendant pas mal d'épisodes, et je crois qu'ils se sont juste sentis obligés pour le dernier. Mais à part ça...
Non, mais...
Je
pense que ça y est. Mais ouais, je sais que c'est un peu pour ça. J'avais vu une espèce de vidéo sur YouTube, ou je sais pas quoi...
Avec Wade...
J'en sais rien.
Ah, mais bon, il est génial, le beau blond. Ah, mais il est génial. Hein. C'était le mec qui ressemblait, je sais pas, à un mannequin qui était juste là pour enlever son t-shirt. Et,
dans sa voiture.
Ouais, et ils en ont joué à fond et il est devenu très très drôle. C'est un petit peu comme Summer, justement, au début de The O.C., qui était là pour être la belle idiote. Et qui finalement, ils en ont joué, ils en ont fait quelque chose de très très drôle. Et,
non, parce que là, en pleine période des fins de saison, les cliffhangers tout pourris. Mais
c'est pas vraiment un cliffhanger, c'est juste. Là, c'est... Allez, on revient,
non.
On
mais là je comprends pas non plus que. Enfin, je comprends pas ces histoires de cliffhanger tout pourri qui arrivent. Si le dernier épisode de la saison que tu fais, il est vachement bien.
T'as pas besoin d'un cliffhanger.
Bah, les gens reviendront parce qu'ils ont envie de voir la série. pas parce qu'ils ont envie de savoir
c'est
si
pas bon, ça, c'est pas
le deuxième personnage, le deuxième personnage indispensable de la série est mort ou pas, puisque on sait tous qu'il n'est pas mort.
Il n'est pas mort, vu qu'il n'est pas mort à l'écran.
Exactement, qui est une théorie de Tigrou. Enfin, voilà, mais pas une théorie, qui est un théorème ou un axiome d'axiome de
Tigrou. Qui s'est révélé vrai dans 100% des cas, 100% des cas pour les cliffhangers de fin de saison.
Non, mais c'est pas comme ça qu'ils pensent les dirigeants des chaînes. Hein. Ils pensent à la ménagère de moins de 50 ans qui a besoin de son petit cliff.
Oui, bah,
ma mère, c'est ça. Ma mère, elle osait encore y croire. Oh mon Dieu, Cassel est peut-être mort ou des choses comme ça.
Mais non, mais par contre, ce qui est, bizarre, c'est que les directeurs de chaîne, ils en ont strictement rien à foutre qu'il y ait un cliffhanger ou pas quand ils doivent prendre la décision. Quand ils doivent prendre la décision d'annuler une série ou pas.
Ah, d'annuler ou pas, non.
D'annuler
ils se
ou
disent,
pas,
y a
ils
des
vont pas se dire.
Ouh là là,
les fans de Cassel. Ouais. En même temps, moi, j'adore Cassel.
Ils vont mettre la pression auprès des scénaristes pour dire il faut absolument que vous fassiez une fin ouverte pour donner envie aux gens de revenir. Parce que c'était une formule
qui
date d'il y a très longtemps.
Il y a plusieurs façons de faire des fins ouvertes.
Enfin, c'est une pression invisible, peut-être, mais ils l'ont un peu tous, je pense.
Peut-être.
Parce que si tu donnes quelque chose d'un peu bouclé, d'un peu fini, et ben, dans leur tête, c'est je prends un risque.
Oui, mais je pense que tu peux ne pas boucler ta série sans faire un cliffhanger absolument scandaleux. Parce que, par exemple, dans Revenge, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont rajouté un truc à la dernière seconde parce qu'il fallait obliger les gens à revenir. Enfin, avec la
bon, après,
la personnage qui est peut-être mort, on se demande vraiment s'il est vraiment mort ou s'il n'est pas monté dans l'avion qui est explosé.
Ouais, c'est ça, on a trop peur.
Voilà.
Encore, non, mais Revenge.
Mais Revenge, c'est un peu le
c'est
la
normal,
série,
c'est normal.
Voilà,
ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est, ça se finit souvent comme ça. Enfin, c'est normal. Mais cette saison, les season finale étaient quand même assez pourries de façon générale.
J'ai pas vu.
Mis à part The Good Wife.
Et Vampire Diaries,
la dernière
cliffhanger était bien.
Ah, Vampire Diaries, c'était super. C'est le seul, c'est vraiment le seul où je me suis dit ah bah tiens. Comme Drum l'avait écrit dans un des textes qui me disait que les season finales étaient tout pourri. Au moins, là, dans Vampire Diaries, ils avaient un peu soigné la fin. La révélation finale change carrément le principe de la série. Là, ok. Mais alors, cette saison, les fins de série, c'est pas la joie.
Il
n'y
a qu'une fin de série qui m'a vraiment donné envie de voir la suite. Et malheureusement, elle est annulée, c'est JCB.
Alors moi j'avais vu que le pilote que j'avais beaucoup aimé et puis après j'ai pas du tout regardé la suite.
J'ai regardé la suite mais vite fait parce que j'avais rien d'autre à voir. Sinon effectivement j'aurais pas été très intéressée et finalement c'était très intéressant sur la fin. Et tu sais il y a le couple ça ils l'ont vraiment très très bien développé aussi. Myriam Shore qui est mariée à un homme gay.
Ouais.
Et on se demandait au début alors est-ce qu'elle le sait ? Alors finalement elle le sait. Et on apprenait vraiment comment marchait leur couple, c'est-à-dire c'était pas juste arrangé, c'était pas juste pour qu'ils se cachent, c'est qu'ils s'aimaient vraiment en tant qu'amis, mais il n'y avait rien de sexuel entre eux. Et vers la fin de la saison...
C'est un peu comme Ferdis et moi.
Exactement, mais j'y ai pensé. Imaginez que vous êtes mariés, ça donnerait à peu près ça, sauf que... c'était quoi ? C'était
Allez,
Cricket.
Prépare-toi, il va falloir faire un peu de chirurgie.
C'est que Cricket sur la fin de la série, de la saison, oui, elle s'appelle Cricket. Elle est attirée par un autre homme et justement là, elle explique à son mari, elle dit cette fois-ci c'est différent avec lui, faut plus que je le voie parce que lui c'est pas comme ses profs de sport qu'elle se tapait juste pour assouvir
juste
sa vie sexuelle à côté. Voilà, c'était pas juste physique, et là elle se disait, mince, il y a un problème, c'est que celui-là, il pourrait être plus, ça pourrait être sentimental, et donc ça pourrait casser son couple,
donc
son
à
couple
choisir,
avec le type gay, donc c'était intéressant.
Choisir, il vaut mieux Art of Dixie ou JCB.
Bah JCB c'est annulé, alors, autant pas se faire du mal.
Justement, c'est plus court. Hein.
Ah, justement, il n'y a que 10 épisodes en plus. Ouais, non, t'as raison, j'ai regardé...
Mais continue, Lord. Ouais,
mais The Good Wife avait un assez bon cliffhanger. Le dernier épisode m'a pas
le
marqué.
Le dernier, mais si, il était dément le dernier.
Rappelle,
si, je sais
ah
plus.
Si,
il y a Michael G.
Juge,
Fox. Il y a Michael G. Fox. Non, il y a Michael G. Fox et la
ah,
fille
oui,
de Raising Hope.
Oui,
et il y a une petite gamine. Et à un moment donné, il y a une scène où Will se retrouve dans l'ascenseur avec le gars de Sex and the City et de New York District.
ils arrivent, ils tombent sur Alicia. Après, en gros, il y a tout le monde d'un seul coup. Il y a la petite gamine qui passe. Ah si, eux, ils avaient un cliffhanger tout pourri.
Et ils avaient un cliffhanger. Mais non, mais qui fonctionnait juste.
Non, parce non. Que le cliffhanger tout pourri avec Kalinda qui est avec son revolver.
Ah non, je parle pas de
lui. Et qui attend son mari ou je sais pas quoi.
Ça, c'était nul. Mais pour moi, le vrai cliffhanger et la vraie fin de la série, t'as pas fini.
Tu l'as pas vu là, t'as pas vu The la fin Good
de Good Wife. Ça fait longtemps que j'ai pas rattrapé.
Enfin. Ah d'accord. Bon. Bah, le vrai cliffhanger, c'est en fait, c'est est-ce que Alicia va rentrer dans la maison de Peter ou pas.
Et ça c'est un super
cliffhanger. Ça, c'est un bon cliffhanger parce que c'est pas artificiel. Et au final, ça n'a pas été résolu directement dans la saison d'après parce que ça conclut la saison finalement, autant que ça ouvre des perspectives pour l'avenir. Et c'est pas le cliffhanger gratuit parce que tu peux pas te permettre de faire ce cliffhanger si t'as pas développé les personnages correctement pendant 20
ans. Ah oui, non, c'est pas une mort débile de personnages supposés. C'est pas.
GG et moi, on était un petit peu déçus par le dernier épisode de Revenge.
On n'ose pas en parler parce que c'est tellement super comme série, mais les deux derniers, les trois derniers.
C'est vrai que l'épisode où il y a la mort du chien qui dure 15 minutes et l'épisode suivant où l'héroïne renonce à tuer genre le gros méchant de la série parce qu'il y a un flashback sur un pigeon, nous en a laissé un tout petit peu perplexes. Mais ça va être super l'année prochaine.
Ils ont de quoi. On peut leur faire confiance vu comment ils ont géré cette saison 1. Ils ont géré le milieu de saison, le relancement de la série. Ouais. Là,
ça va dépendre de comment ils castent un nouveau personnage aussi, mais.
Ouais. Je pense surtout, il faut pas prendre Lena Olin parce que elle sera dans les trois premiers épisodes puis après elle va mourir. Mais
elle va se barrer.
Elle voudra plus d'argent et non, ça va pas aller du tout. Oh, qui ça pourrait être? Qui on aimerait bien, pas Christine Sinovich, je la supporte plus.
Alors, une actrice qu'on a plus vue depuis longtemps dans une série.
Donc elle doit être blonde puisque sa fille est blonde, donc elle est clairement blonde.
Sarah Michelle Gellar, elle a pas l'âge encore.
Non.
Bah
non.
Si, elle a quel âge maintenant?
Elle
a 36 ans.
Bah elle peut avoir largement avoir une fille de 20 ans. Quoi.
Elle a pas 20 ans, elle en a plus de 25. On n'arrête pas de te dire qu'elle était petite dans les années 90. C'est pour ça que son chien a au moins 20 ans.
Non, mais parce qu'au départ, le mec qui jouait son père, c'était l'acteur qui jouait Riley dans Buffy. Donc ce serait pas du tout incohérent que Sarah Michelle Gellar ait l'âge d'être.
Ils l'ont changé pour le mec de Man in Tweed.
Qui ça pourrait être.
L'actrice qui fait Suki dans True Blood, elle est pas très bien. Mais...
Moi, d'un seul coup, j'ai pensé à celle qui faisait Suki dans Gilmore Girls. Et... ça pourrait être marrant aussi.
Alexis Bledel, elle est tellement versatile comme actrice.
Et bien par contre, dans Mad Men, bizarrement, elle m'a pas dérangée.
Ah, on lui demandait d'être monolithique.
Oui, non mais c'est ça.
J'ai pas aimé qu'on voit un bout de sa poitrine. Pour moi, c'était horrible. Il y avait un truc qui n'allait pas.
Elle est pas mauvaise, mais elle est trop associée. Mais je pense qu'elle est trop associée à un rôle et j'ai pas réussi à l'oublier complètement. Mais c'est aussi parce qu'elle avait un tout petit rôle dans Mad Men pour l'instant.
Ouais. On trouve.
Si, January Jones, puisqu'elle est en train de se faire virer de Mad Men et pas dans Revenge.
Ça serait super.
C'est l'étape suivante de sa carrière.
Elle serait habillée en blanc tout le temps. Les cheveux tirés en arrière. Ah, mais si, j'ai vu X-Men.
Elle fait peur de manière assez naturelle.
Moi, elle m'a fait peur.
Elle était nulle en Emma Frost, mais.
Non, elle était pas mauvaise, elle était pas excellente
non plus. Vous connaissez le comics ?
C'est quoi ?
Oui, mais Emma Frost, c'est genre un personnage un peu pourri, elle est méchante pendant 100 épisodes, ensuite elle devient gentille, puis elle redevient méchante.
Juste avoir beaucoup
puis elle
d'ennemis.
Redevient gentille, puis elle redevient méchante. Enfin,
mais c'est pas tous les.
Non, mais elle en particulier, c'est-à-dire qu'à peu près tous les trois épisodes, on s'aperçoit qu'en fait elle a fait semblant d'être gentille et qu'en fait elle était vraiment méchante parce qu'elle espionnait.
Mais après, en fait elle a fait semblant d'être méchante.
Elle a fait semblant d'être méchante.
Et ça peut être super pour Revenge.
Oui.
Non, il faut January Jones.
Absolument.
Bon, on va écrire.
On va suggérer au créateur, je ne sais plus comment ça s'appelle
bien. Parce que des blondes, dans Desperate Housewives, il n'y avait pas de blondes.
Ah bah si, il y a Lynette.
T'as vu la fin de Desperate Housewives ?
Non,
il n'y a que moi.
Non, celle qui est morte.
Ça m'a donné envie.
Celle qui est morte.
Ah oui, et
Nicolette Sheridan.
Ouais, mais plus personne ne voudra jamais l'embaucher.
Mais c'est que des has-been dans Revenge, elle serait parfaite.
Mais c'est pas que des has-been dans
Revenge.
Mais
c'est que des has-been.
Mais non, il y a Madeleine Stowe et puis c'est
elle est bien has-been.
Mais oui, mais il n'y a pas qu'elle.
Si, il y a le gars de Roswell.
Le gars de Roswell.
Bah oui, oui, Jack.
Son amoureux du bar, c'est le gars de Roswell.
Bah il
y a
oui.
Le mec qui s'est
fait.
C'est le
petit frère de Gossip Girl.
Le fils du shérif dans Roswell.
Non, mais attendez. Non, ouais, alors, Roswell, j'ai dû voir 4 ou 5 épisodes en VF quand ça passe dans la télévision. C'est un extraterrestre ?
Non.
C'est le frère de...
Le fils du shérif.
Non, c'est le fils du shérif.
Non, bah, je sais pas qui c'est, alors.
Dans Roswell, il y avait...
Le fils de Tom Hanks.
Il y avait un brun.
Oui, deux bruns, le fils de Tom Hanks.
Et il y avait Colin Hanks, il jouait dans...
Oui, c'était le meilleur pote. Le fils du shérif. Et puis après, t'avais les aliens.
Alors, mais parmi... C'était pas un alien, le gars qui joue dans Revenge ?
Non.
Bon, bah, je connaissais pas lui. Il n'y a pas que des has-beens que tu racontes.
Ah si, le petit frère de Gossip Girl.
Bah, c'est pas has-been, il a 15 ans, il peut pas être has-been à 15 ans. Non, et Rebecca, comment elle s'appelle, non, Emily
Van. Ouais. Non, elle, je l'aime bien.
Elle est quand même une assez bonne actrice qui est très limitée dans son rôle actuel.
Elle est super.
Elle est super.
Et qui est pas du tout has-been pour le coup. D'ailleurs, elle s'est barrée de Brothers and Sisters juste à temps pour
c'est
avoir
sa série. C'est mini Jennifer Garner. Elle a joué deux fois Jennifer Garner, gamine.
Ah bon?
Ouais. Hein, dans 30 ans sinon rien et dans le fantôme de mes ex que je n'ai pas vu mais je le sais, c'est tout.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, une ancienne actrice de Melrose Place, j'aimerais bien.
Heather Locklear, non, elle pourrait jouer sa grand-mère qui est...
Ah, bah oui.
Non, mais il pourrait mettre
voilà.
Mais je pense qu'ils peuvent trouver une actrice de Desperate Housewives qui est suffisamment désespérée à l'idée d'être au chômage de... Laquelle ?
Non, je redis de Nicolette Sheridan, laquelle ?
Non, elle peut jouer sa grand-mère.
Terry Hatcher en blonde.
Non, mais si ça se trouve, la mère, on va découvrir...
Je suis désolé d'avoir parlé de Terry.
On va découvrir que c'est... Comment elle s'appelle, celle-là ?
Oh non !
Amanda...
Ah non, tu vois que c'est la blonde qui couchait
avec... Non, pas la blonde, la brune, comment elle s'appelle ?
Madeleine Stowe ?
Madeleine Stowe.
C'est aussi la mère de...
Moi, je sais rien, peut-être.
Mais non.
Non,
non, c'est peut-être la blonde.
Ah oui,
c'est la qui est en coma et tout.
Mais non, elle est morte. On l'a pas vue mourir à l'écran, mais comme c'est un personnage très secondaire.
Ah bah elle est morte dans l'avion.
Et un autre personnage qui monte avec elle dans l'avion, ouais, elle est morte.
Comment s'appelle celle que t'as croisée dans un Starbucks ou je sais plus quoi ?
Moi j'avais Marion
Cotillard. Celle de Pasadena.
Quoi ?
Hein ?
Quoi ? Pasadena, ça je m'en souviens.
Oui, c'était la crise de Pasadena, de Desperate Housewives.
Oui, qui jouait Catherine dans Desperate Housewives, qui s'appelle, je ne sais plus du tout comment.
Celle qui devenait dans Body of Proof.
Ah, ils peuvent prendre Julie Benz de...
Ah ouais.
T'as vu la fille de China Beach, elle a eu des Emmy pour ça.
Ah bon ?
Ouais. Ah non, mais tu l'as vu où ?
Au Pain Quotidien, à New York.
Hein. Ah oui, moi
c'était un peu rien. Elle était avec un mec super vieux et tout. On se demandait si c'était son mari.
Quand t'es venu, on a vu personne.
Mais
je crois,
mais quand il y avait Drum et tout ça. Dans un.
Alors moi j'avais vu.
Ah non, c'est toi qui l'avais vu.
Moi
j'ai intégré dans ce que je raconte.
Invasion Planète Terre.
Oui, c'est ça. Bah, moi je raconte ça à tout le monde.
Ah, mais j'ai vu plein de gens. J'ai vu le mec de Dark Angel et de Murder One. Wow. Lui, j'avais une petite conversation avec lui.
Ouais, bah moi je suis passé à côté de Marion Cotillard chez Merci.
Moi je suis allé à Cannes pour voir des stars et la plus grosse star que j'ai vue pendant 4 jours à Cannes, c'est Julie Gayet. Donc je ne vois jamais de stars. Donc c'était déjà un miracle que je croise une actrice secondaire de Desperate Housewives en 6 mois.
Hein ?
Quand j'étais à New York, j'ai croisé une actrice secondaire de Desperate Housewives.
C'est qui ?
Bah, c'est Catherine.
Ah oui.
J'ai croisé.
Je viens de dire.
Comment elle s'appelait Nora Zehetner aussi. Tout ça dans la rue.
Qui ?
Nora Zehetner. Elle était dans. Bah, justement, la même série que Machine de Revenge.
Brother and Sisters.
Non.
Everwood.
Et voilà, Everwood. Elfim Brick.
Et From. T'as croisé
Catherine ? Non, Nora Zehetner, c'est une fille.
C'est
pas grave, Julie saura de qui je parle.
Bon, il faut conclure ce podcast sur quoi ? Sur les séries qu'on a hâte de retrouver à la rentrée, sur les séries qu'on va regarder cet été.
Ah, Awkward.
Hein ?
Ah, Awkward.
Awkward. Ouais, c'est un peu bizarre qu'on regarde des séries d'ado.
Sur MTV.
Pas sur MTV.
J'en ai aucune idée. Je vais regarder Breaking Bad cet été, même si j'aime plus trop la série.
Oui, oui, bah, on est tous là. Voilà. On est tous là.
Moi, contrairement à toi, j'ai très envie de voir la nouvelle série d'Aaron sortie.
Moi, j'aime pas Jeff Daniels.
Mais il y a Alison Peak.
C'est qui Jeff Daniels ?
Ah, c'est le mec qui joue dans La Rose Pourpre du Caire et qui gâche tout le film. Et je crois qu'il joue aussi dans Speed.
Les vieilles.
Tu m'aides beaucoup.
Non, mais moi je vais regarder. Elle nous a pas vu ces films.
Alors, Jeff Daniels, Reese, ouais, non.
Dumb and Dumber.
Ah ouais. C'était bien ça comme film. Je pensais que ça va être bien The Newsroom, ce sera chier comme.
Je sais pas, mais il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans.
Moi, je sais Peel, absolument moi, je pas ce qui va arriver.
Elle était. Bah, tu as Harvey Milk. Elle joue la lesbienne, je suis frisée dedans.
Ah, c'est celle qui jouait dans.
Elle joue Zelda Fitzgerald.
Dans, elle jouait surtout dans, oui, dans le Woody Allen, mais elle a joué dans In-Treatment, la fille qui a un cancer.
Ouais.
Elle a joué dans The Book of Daniel, qui était une très bonne série.
C'était super ça, avec le frère de Neve Campbell.
Qui jouait un gay.
Qui était gay. Et puis avec un type qui jouait dans Légende d'automne, non? C'était pas le père?
Mais en fait, il y avait un pur casting, parce que la grand-mère, c'était l'actrice de Requiem for a Dream. Enfin, c'était vraiment des purs acteurs, mais ça a été annulé au bout de 5 épisodes, je crois.
Ouais,
on est les seuls à avoir vu cette série. Mais,
on vous conseille de regarder The Book of Daniel pendant cet été.
C'est 13 épisodes, c'est très bien. C'est un peu
13 épisodes, tu rigoles. C'est 5 épisodes.
Non, ils ont. J'avais regardé une saison entière, ou peut-être 8, je sais pas.
Ouais.
Mais c'était un peu comme.
Ça a été annulé au bout. Déjà, la moitié de la moitié des épisodes. Mais
tous les épisodes sont sortis après sur Internet ou en DVD.
Ah ouais.
Et c'était vachement bien.
Ah ouais, c'était super.
C'était un peu un Six Feet Under avec des prêtres. Et sans scène de sexe crue.
Moi, j'ai bien envie de regarder Pasadena cet été, le soap
qui est bien. Passé il y a bien. Il y avait Nathan Fillion.
Et c'est vrai?
Mais oui, jouait un prêtre.
Mais non, le prêtre non, Buffy, qu'est-ce que... Ah,
mais non, justement, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Le prêtre qui a ce tab,
moi, je vais regarder.
Parce que moi, j'ai juste vu la version qui avait été diffusée sur M6, genre en 3 parties, qui a été coupée et tout ça. Mais apparemment, il se passe plus de choses dans les épisodes. Ouais, il y a 13 épisodes. Et j'ai le coffret DVD chez moi. Oui, en version numérique.
Bon, quand je reviens à la fin de l'année, on se fait un marathon.
Ouais, donc à la rentrée, Blackie, quelle est la série? Tu vas regarder True Blood? Ça n'a plus aucun sens ce podcast.
Non, j'avais déjà arrêté l'an dernier, j'en pouvais plus.
Moi, j'avais arrêté, mais je pense que je vais regarder quand même. Parce que... Non, mais c'est un peu comme Desperate Housewives, c'est une série qui est bien pratique quand tu veux repasser, faire ta vaisselle sans avoir à regarder l'image, des choses comme ça. Il se passe pas grand chose. Il y a. Ouais, je pense que c'est un peu la série sûre que tu peux regarder en faisant autre chose.
À la rentrée, qu'est-ce qu'il y aura à la rentrée?
Je sais pas, moi j'attends Louis cet été. Oh. Sans l'attendre vraiment, mais je vais être très très content quand ça va passer.
Moi j'attends rien, je vais continuer à regarder Girls sur HBO parce que j'aime bien.
C'est super.
Mais je crois que ça se finit dans un épisode ou deux, mais en tout cas,
je
c'est
super. Que 10.
Et voilà. Et à la rentrée, je regarderai The Good Wife et Revenge.
Et moi je vais rattraper mon retard sur VIP, histoire qu'on en parle un peu sur le site.
Bah, il n'y a pas de raison qu'on en parle, c'est.
C'est bien VIP.
Ouais. Ah, enfin, non, c'est pas bien. Mais...
Si, c'est bien.
C'est moins bien que Girls.
Je sais pas, je regarde pas Girls.
Je crois qu'il est temps de finir.
Ouais. Et bien, comme dans Cougar Town, on va vous souhaiter.
Un bon Thanksgiving.
Un bon Thanksgiving. Un bon mariage.
Ils se marient, ça y est.
Ça se finit pas sur un mariage. Moi, j'ai 5 ou 6 épisodes de retard.
Ah, mais je crois que c'est l'épisode que je vais voir ce soir, l'épisode d'une heure.
À très bientôt. Et si jamais Mad Men fait une season finale qui déchire sa mère, Blackie reviendra aussi de New York pour nous en parler. À bientôt.
À bientôt.
Bisous, bisous.
Zou, bisous, bisous.
Zou, bisous.
Super.
Perds pas tout, hein.